Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts. Voulez-vous appeler?
Est-ce que ça marche?
Les chercheurs et chercheuses qui font de l'analyse de manuscrits ont besoin de textes numérisés et traitables par ordinateur. Mais quand ceux-ci ne sont pas disponibles, il leur est nécessaire de copier ces textes à la main. L'apprentissage automatique accélère grandement ces pratiques. Mais de telles méthodes dépendent d'exemples générés par des transcripteurs et transcriptrices. Autrement dit, ces techniques ont besoin de données qui ne sont pas toujours disponibles aux chercheurs et chercheuses. Aujourd'hui, Alix Chaguet nous parle des enjeux de transcription des manuscrits et de données ouvertes, et comment ceux-ci représentent une occasion de bousculer et décloisonner les pratiques scientifiques. Bienvenue à la saison 2 de
Scolaire.
Théorie dysfonctionnelle.
Une balade de diffusion qui nous explique
que la théorie ne sert à rien,
mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup de temps.
De temps.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce tout premier épisode de la saison 2 de Scolaire, on reçoit Alix Chaguet qui est doctorante en humanité numérique. Alix, veux-tu te présenter?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Alix Chaguet, je suis doctorante en humanité numérique en co-tutelle entre l'Université de Montréal et à l'École pratique des hautes études à Paris et je suis membre de l'équipe Almanac à INRIA.
Merci beaucoup. Et quelle est la notion ou le concept théorique dysfonctionnel que tu me présentes aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est pas vraiment une notion unique dont je vais vous parler, mais plutôt l'intersection entre une technologie et une notion ou un ensemble de pratiques. Donc, l'intersection entre la transcription automatique, qui est mon domaine de spécialité pour ma recherche, et la science ouverte.
Donc, pour la toute première question qu'on pose toujours aux invités à Scolaire, ça serait de nous définir le concept. Là, ce que je comprends, c'est que la notion que tu as choisi de me présenter aujourd'hui est en fait à l'intersection de deux concepts. Donc, pourrais-tu nous définir de manière simple chaque concept et puis ensuite aussi nous définir de manière simple leur intersection?
Alors, pour commencer, la science ouverte, c'est le fait que le monde de la recherche, notamment, publie d'une manière facile à accéder les produits de la recherche scientifique. Ça veut dire, par exemple, publier des articles dans des revues qui sont distribuées gratuitement et qui sont financées par d'autres moyens que par le fait que les lecteurs payent pour accéder au contenu. Donc, ça permet de limiter les intermédiaires qui font du bénéfice sur cette production de la recherche.
En fait, c'est de ne pas mettre de barrière quelconque, qu'elle soit pécuniaire ou autre, à la diffusion et à l'accès aux connaissances.
Tout à fait. Mais au-delà de l'aspect financier ou de ces transactions, il y a aussi le fait que pour les chercheurs et les chercheuses, ça veut aussi dire avoir des pratiques vertueuses par rapport à ce qu'on met en ligne, ce qu'on publie, ce qu'on rend accessible pour prouver que notre recherche est ce qu'on dit qu'elle est. C'est-à-dire que dans la science ouverte, il y a aussi l'idée qu'on favorise le fait de reproduire les expérimentations ou les traitements qui nous ont conduits à tirer telle ou telle conclusion, dans l'idée que si on veut avoir une science de qualité, il faut pouvoir reproduire certaines expériences et confirmer que effectivement, si je refais les mêmes expériences avec les mêmes données ou les mêmes informations, j'arrive aux mêmes conclusions. Et dans la science ouverte, il y a aussi l'idée que si on rend public des données, notamment des données intermédiaires, ça permet aussi à d'autres de bifurquer par rapport à la direction qu'on a prise et de pas recommencer du début ou de pas forcément chacun travailler dans son coin, mais aussi pouvoir travailler à partir de ce que les autres ont produit et pas uniquement à partir de leurs conclusions.
Ok, je comprends. Donc une transparence aussi sur le processus, en fait.
C'est ça.
Et puis, ton autre concept était la transcription automatique. Quelle serait la définition simple de ça?
Pour faire simple, la transcription automatique, c'est le fait qu'on donne à un logiciel une image d'un document, qu'il soit imprimé, manuscrit ou autre, et qu'on puisse récupérer, en sortie de ce logiciel, le texte numérique qu'on peut ensuite copier-coller dans différents éditeurs pour faire ce qu'on veut avec ce texte. Et cette technologie de la transcription automatique, elle s'appuie sur l'apprentissage automatique. Alors, là, je parle de transcription automatique. Dans le reste de notre conversation, je vais peut-être parler de HTR ou OCR, ces deux sigles qu'on utilise aussi pour parler de cette technologie. Et ces sigles signifient, pour le cas de l'HTR, on parle de Handwritten Text Recognition, donc la reconnaissance du texte manuscrit, ou OCR, c'est Optical Character Recognition, donc la reconnaissance optique de caractère, et c'est le fait de donc, transcrire caractère par caractère dans le cas des documents imprimés.
On va parler en fait de l'intersection en la transcription automatique de documents qui serait effectuée donc automatiquement par un logiciel capable de reconnaître les caractères, et puis la science ouverte. Comment est-ce que les deux se croisent en fait?
Alors les deux se croisent parce que quand on utilise la transcription automatique, on a souvent besoin d'entraîner des systèmes d'apprentissage automatique. Et ça veut dire qu'il faut produire des données pour pouvoir entraîner les logiciels à reconnaître le texte. Or, ce genre de données-là échappe parfois à la science ouverte parce que ce sont des données intermédiaires que les chercheurs et chercheuses ou utilisateurs et utilisatrices de l'HTR pensent comme des données produites pour leur projet avec la finalité de transcrire un manuscrit en entier. Donc, à partir du moment où le système fonctionne pour transcrire le reste du manuscrit, ces données sont mises de côté et un peu oubliées alors qu'elles ont de la valeur dans une dynamique de science ouverte.
Et donc ça, c'était la définition simple du problème. Donc, de manière plus complexe, pourquoi alors est-ce que les gens ont tant de difficultés à partager ces données intermédiaires? Et peux-tu nous définir de manière donc plus complexe chaque composante de ce problème?
Alors, dans le cadre de la transcription automatique, ces données d'entraînement dont je parle, on parle aussi de vérité de terrain. Donc, c'est vraiment des données où on va prendre le manuscrit et puis, à la main, on va transcrire des lignes ou des pages. En fonction des documents, on va avoir besoin de plus ou moins de pages ou plus ou moins de lignes, en fonction de la difficulté de l'écriture aussi. Donc, ce sont des données d'exemple. On entraîne un modèle d'apprentissage automatique dessus, puis...
Quand tu parles de retranscrire, il faut qu'il y ait un humain qui tape sur son clavier le document, genre de manière manuscrite, presque comme un moine copiste.
C'est ça, d'ailleurs, ça conduit certains logiciels à faire référence à cette idée du scriptorium, qui est cet endroit où on copie les...
Où on recopie les manuscrits, oui. OK. Et puis ensuite, tu disais que le processus pouvait prendre plusieurs pages.
Du point de vue du logiciel, il y a, quand on cherche des images dans le logiciel, on va ensuite identifier où se trouvent les lignes sur l'image. Mmh. Pour pouvoir avoir, si j'ai une page avec deux colonnes de texte et j'ai 40 lignes dans chaque colonne, on va avoir 80 lignes qu'on a repérées sur l'image. Donc là, il y a des logiciels qui se chargent de rendre un peu ça visuellement pour qu'on puisse transcrire facilement chacune des lignes. Et donc, on va avoir des personnes qui sont chargées de transcrire à la main 50, 100 pages, qui sont ensuite données au logiciel ou à l'algorithme qui est derrière pour entraîner ce qu'on appelle un modèle de transcription qui va être capable ensuite d'être appliqué au reste du document. Il y a plein de questions qui sont soulevées dès qu'on parle de cette partie-là de production des données d'entraînement, et notamment celle des règles de transcription, donc le fait de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on transcrit exactement. Ici, il y a une tension par moment entre les habitudes des personnes qui travaillent sur l'édition de manuscrits, qui sont habituées à certaines manières de transcrire, parce qu'ils ont une manière vraiment basique, c'est d'avoir une image sur la fenêtre de son ordinateur, et puis juste à côté Word, et puis taper dedans.
Ouais.
Et donc, les chercheurs ont, par exemple, l'image et Word à côté, ils tapent, et puis quand on a ces chercheurs et ces chercheuses qui passent ensuite sur des logiciels de transcription automatique, là, on leur demande de décomposer un peu la manière dont ils travaillent et donc de travailler ligne à ligne et de s'interroger sur comment on transcrit tel ou tel phénomène, mais pour entraîner une machine et pas uniquement dans la perspective de faire une édition. Donc, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur comment on transcrit pour entraîner la machine, ensuite, une fois que j'ai entraîné mon modèle de transcription, je me retrouve avec, pour faire simple, trois choses. Mon modèle de transcription, mes données d'entraînement que j'ai créées, dont la transcription est parfaite, entre guillemets, et le produit de l'application de mon modèle au reste de mon manuscrit ou au reste de mon document. Où là, peut-être qu'il y a plus d'erreurs de transcription et je peux éventuellement effacer toutes ces erreurs en corrigeant à la main. Et ces derniers ensembles de données, c'est ça qui va me servir ensuite à faire mon édition numérique si je veux faire ça, ou simplement à les mettre dans mon catalogue de bibliothèque si je cherche à rendre disponibles les contenus textuels des documents que j'ai dans mes collections. Et là où je disais que les problématiques de sciences ouvertes sont un peu ignorées par la partie de l'HTR, c'est justement sur ces questions des modèles et la question des données d'entraînement. Parce que ce sont des données qui ont une valeur notamment pour entraîner d'autres modèles de transcription dans d'autres contextes. Or, pour qu'elle soit efficacement ancrée dans des problématiques de sciences ouvertes, il faut avoir des bonnes pratiques qui sont propres à ces données-là et qui sont mal connues des chercheurs et des chercheuses qui découvrent l'HTR.
C'est super intéressant. Est-ce que tu aurais un exemple, un code de transcription automatique, un manuscrit en particulier sur lequel tu as pu travailler ou tu as pu voir les gens penser à ces pratiques?
En fait, plus qu'un exemple d'un manuscrit, j'ai un exemple de moi en tant qu'intermédiaire de ce partage des données. Donc, il y a 4 ans, j'ai créé avec un collègue, Thibaut Cléris, un catalogue qui permet de faciliter le partage de ces données. En fait, on était confrontés au fait que moi, j'avais des personnes qui me contactaient pour travailler sur de la transcription automatique et qui faisaient appel à moi parce que j'étais impliquée dans des projets avec les archives nationales notamment, et donc j'avais une expérience de travail avec ces technologies. Et ils me contactaient notamment pour savoir combien de données je dois transcrire, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et puis donc, ces personnes-là qui me contactaient, elles me disaient « Ah, moi, je vais travailler sur un manuscrit en français du 19e siècle. » Puis j'avais une autre personne qui me contactait qui me disait « Ah, moi, je vais travailler sur un manuscrit en français du 19e siècle. » Et je me disais à chaque fois, vous pouvez réutiliser nos données, bien sûr, puisqu'elles sont prêtes, mais c'est dommage de pas travailler en synergie entre ces deux différents projets qui travaillent sur des données en français du 19e siècle.
Mmh.
Et donc, j'essayais de dire aux gens, peut-être contactez-vous entre vous. Puis, on a fini par se dire, mais en fait, ce qui manque, finalement, c'est un moyen pour les gens de trouver ces données.
Mmh.
Une sensibilisation au fait qu'il faudrait les publier, mais ça, on peut revenir là-dessus après. Mais aussi un moyen pour les gens de donc, avoir un point d'accès vers ces données qui sont plus ou moins publiées. Et c'est pour ça qu'on a créé un catalogue qui s'appelle HTR United. Et dans ce catalogue, ça nous a conduit à non seulement réfléchir à comment on fait pour créer une ressource qui est utile aux utilisateurs de l'HTR, qui ne vient pas rajouter une couche supplémentaire de publication. Donc, par exemple, HTR United ne fait que référencer des entrepôts ou des jeux de données qui sont publiés sur d'autres sites, par exemple vers Zenodo, GitHub ou des entrepôts universitaires sur Nakala aussi, etc. Donc on ne vient pas dupliquer les données dans HTR United, on ne fait que décrire le dataset et dire « il se trouve ici ». Et l'idée, c'est comme ça de proposer une interface sous la forme d'un catalogue où les gens peuvent dire « alors je travaille sur des données en français du 19e siècle, pour reprendre mon exemple », de dire « ok, est-ce que quelqu'un d'autre à référencer un dataset en français sur cette période-là. » Et comme ça, il dira, y en a 4, par exemple, et donc je vais pouvoir consulter le lien, aller regarder à quoi ressemblent les écritures, me dire, tiens, celle-ci, elle ressemble beaucoup à mon écriture, l'écriture dans mon document, et donc ça me permet de me dire, tiens, au lieu de transcrire 50 pages pour entraîner mon modèle de transcription, je peux peut-être en prendre 25 de ce dataset et rajouter moi 25 pages, donc faire moitié moins, et obtenir quand même une transcription qui fonctionne.
Donc, il faut que ça soit les utilisateurs, utilisatrices qui, elles-mêmes, rendent disponibles ces données sur HTR United, ou est-ce que vous faites un genre de travail de fouille sur Internet ou de contact avec des gens pour les avoir?
Pendant longtemps, notre logique, c'était de dire on sensibilise les utilisateurs et les utilisatrices de l'HTR en leur disant il y a un catalogue qui existe et c'est bien d'y contribuer. C'est aussi bien d'utiliser les ressources qui sont référencées dedans, parce que c'est autant le fait que les gens signalent leurs données que le fait qu'ils les utilisent.
Ouais.
Et puis depuis quelques temps, on réfléchit à avoir une approche éditoriale qui est un peu plus proactive, et donc nous, d'aller repérer des datasets qui échappent un peu à nos réseaux aux gens qu'on arrive à sensibiliser à HTR United, et se dire y a plein de données qui existent quand même en ligne, et d'aller nous-mêmes créer les notices de description des jeux de données dans le catalogue. Mais là, ça recoupe une autre problématique qui est liée à la publication des données de transcription pour l'entraînement des modèles. C'est celle de ce qu'on pourrait dire la complétude de la description. C'est-à-dire que une des raisons qui nous a poussé à créer HTR United, c'est que quand on cherche des données qui ressemblent à un document qu'on a besoin de transcrire, tous les entrepôts de données comme Zenodo, Nakala, que je mentionnais tout à l'heure, n'ont pas des champs de filtre par langue, par siècle, par type d'écriture, etc.
Ah.
Par exemple, si je travaille sur du manuscrit, du français du 19e siècle, je garde mon exemple, Si je vais dans Zenodo, je peux essayer de faire une recherche plein texte en espérant que quelqu'un a bien mis ces mots-clés-là dans sa description de son dataset. Mais si quelqu'un a simplement mis français 19e siècle, peut-être que ça va être de l'imprimé que je vais trouver. Ça m'intéresse pas de travailler dessus parce que finalement j'ai vraiment que du manuscrit et l'imprimé ça va créer de l'interférence. Et donc dans HTR United, l'une des motivations à créer une description plus structurée, c'était aussi de pouvoir offrir des filtres qui sont utiles aux réutilisateurs des données. Et ça inclut aussi des informations sur les licences et les conditions de réutilisation. Pas uniquement sur le contenu du jeu de données, mais sur est-ce que je peux le réutiliser facilement ? Est-ce que les images sont disponibles ? C'est quoi la taille du dataset ? Est-ce qu'on parle de 6000 images qui ont été mises en ligne par quelqu'un ? Ou est-ce que c'est juste 10 images ? Parce qu'on a vraiment les deux types de dataset. Mais on parle aussi des formats et des standards. Et puis ça, on peut peut-être en parler un peu plus dans la perspective de ce podcast. La raison pour laquelle je parle d'HTR United pour illustrer cette question-là de l'intersection entre sciences ouvertes et transcription automatique, c'est que dans le cas de ces données d'entraînement, on rencontre tout de suite une problématique de sciences FAIR. C'est un acronyme pour Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, donc trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Et HTR United essaie de répondre à cette problématique-là pour entraîner des modèles de transcription.
Est-ce que sur HTR United, c'est surtout des datasets ou est-ce que vous avez aussi répertorié des modèles?
Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et je suis contente que tu me la poses aussi parce que ça me permet de clarifier ici et puis peut-être de commencer à discuter un peu de dysfonction. HTR United ne recense pas de modèles.
Ok.
Parce que dans le cas de la transcription automatique, là, je vous parle d'une technologie, mais cette technologie, elle se réalise dans plusieurs logiciels. Et les logiciels n'ont pas tous les mêmes manières d'entraîner des modèles. Et donc, ces modèles-là ne sont pas interopérables d'un logiciel à l'autre. Alors que les données, elles, ont plus de chances d'être interopérables. Donc, on ne répertorie pas les modèles, mais on répertorie plutôt les données qui ont permis d'entraîner des modèles.
Ah, je comprends.
Après, les datasets peuvent inclure un modèle s'ils disent, bah voilà, ça c'est mes données et j'ai entraîné tel modèle avec et puis je le publie en même temps, ou simplement pointer vers le modèle en disant, bah ça c'est mes données et j'ai entraîné tel modèle avec ces données.
OK.
Mais ce n'est pas nous qui faisons l'intermédiaire vers les modèles.
Et tu disais que ici, ça nous faisait une belle transition vers la dernière question de ce collègue. En quoi est-ce que tout ceci nous fait dysfonctionner et là, d'une bonne manière, il nous fait réfléchir à nos pratiques?
En fait, ça dépend un peu des points de vue. C'est-à-dire que du point de vue de l'utilisateur ou de l'utilisatrice de la transcription automatique, il y a quelque chose de dysfonctionnel dans l'HTR, ou en tout cas de décevant, je pense, a priori, sur la transcription automatique. C'est qu'on a cette image de la transcription automatique, ça marche un peu par magie, j'appuie sur un bouton « Entrée » et puis je vais avoir mes milliers de pages qui sont transcrites. Et il y a cette rencontre avec la réalité de « ben non, en fait, d'abord je produis des données à la main pour montrer à la machine comment je veux transcrire, puis ensuite j'entraîne mon modèle, puis il fait pas bien, mais il fait un peu mieux qu'avant, donc là je peux l'appliquer un peu sur mes données et retranscrire et corriger, puis il fait toujours pas super bien, donc je réentraîne un modèle, puis ça s'améliore par cycle comme ça. » Donc, il y a un côté déception à l'arrivée, mais il y a aussi un côté déconstruction, là j'en parlais au début, déconstruction de pratiques qui sont liées plutôt à si je fais ma transcription dans mon coin, avec mon Word sous la main et mon image, je me pose pas la question de la mise en page de mon texte, de l'ordre des lignes, parce que bien sûr que pour moi, c'est évident dans quel ordre je lis les lignes sur mon document, alors que pour un système de transcription automatique, c'est pas évident qu'un alinéa ne fait pas passer la ligne au-dessus qui est indentée dans l'ordre de lecture après la deuxième ligne. Enfin, il n'y a pas cette notion de d'ordre de lecture qui nous est évident qu'on a appris en fait avec les années. Et puis donc, si je reviens vers l'autre concept avec lequel je mélange la transcription automatique, faire de l'HTR dans un contexte de sciences ouvertes pour les utilisateurs et les utilisatrices de l'HTR qui sont donc les personnes qui vont mettre en ligne les données. Il y a aussi un côté, moi, mon but, c'est de faire de la transcription automatique de mes milliers de pages. Pourquoi je perds du temps à publier mes données d'entraînement alors que maintenant, c'est bon, j'ai mon modèle et je me fiche un peu des données d'entraînement. Et en plus, pourquoi je devrais passer du temps à les décrire comme il faut pour que quelqu'un les réutilise, etc. Donc, il y a un premier dysfonctionnement ici, je pense. Quelque chose qui vient se confronter un peu avec certaines pratiques de transcription non automatique.
Ouais.
Je pense que dans le contexte d'une science ouverte où on essaie de publier les données, il y a aussi un télescopage entre les pratiques vertueuses que ça suppose, donc documenter ces données, etc., et puis contribuer à faire avancer la science, aider nos collègues, chercheurs et chercheuses, etc. Et en même temps, il y a cette méfiance dans la science ouverte en général de « ouais, mais si je publie mes données gratuitement en ligne et que, et que je les rends accessibles, en fait, ceux qui vont s'en servir, c'est les gros players, donc les GAFAM. Puis
ah, même, ouais.
Au-delà des GAFAM, il y a les, simplement là, ceux qui entraînent en ce moment, comme OpenAI, des gros modèles de transcription de langue.
Donc, c'est vraiment une crainte que les GAFAM leur volent leurs données.
Ouais, en fait, il y a deux choses. Il y a la peur que quelqu'un dise « Ah, j'ai tes transcriptions sur tant de pages, du coup, je m'en sers pour faire autre chose, parce que j'ai accès au texte. » Et il y a « Ouais, mais mes données, du coup, elles vont faire avancer l'IA par les GAFAM. »
Ah, OK.
Mais moi, je pense que ça reste des questions légitimes, OK. C'est important de se poser ces questions-là plutôt dans la logique de l'IA se développe, et puis avec quelles données, enfin, il y a vraiment un problème de protection de certaines données qui ne devraient pas être utilisées dans ce contexte, mais dans le cas de l'HTR, je pense que parfois les chercheurs ont tendance à surestimer l'importance de ces données pour des players comme les GAFAM, alors que par contre ces données-là, elles sont vraiment utiles à des gens ou d'autres chercheurs et chercheuses qui ont moins de moyens et qui pourraient vraiment bénéficier d'avoir accès à 100 pages de transcription quelque part.
Ouais. T'as soulevé un point intéressant avec la difficulté que des chercheurs, peut-être particulièrement en histoire ou en littérature, des gens qui sont habitués à manipuler plus du texte ou qui s'inscrivent plus en sciences humaines, à penser à leurs données d'une manière qui pourrait être... disons, computable ou computationnel. Est-ce que tu crois que peut-être il y a un enjeu aussi par rapport aux sciences humaines ou à la manière dont on perçoit le texte?
Ça rejoint un troisième point que je voulais faire sur le caractère dysfonctionnel de cette intersection de l'HTR avec la science ouverte.
Mm-hmm.
Les formats et les standards et les normes de transcription.
OK.
Donc, si je veux rendre mes données réutilisables par une autre personne dans le contexte d'un entraînement de transcription automatique, j'ai plutôt intérêt à suivre les standards qui sont utilisés pour le partage de ces données.
Mmh.
Dans le cas de l'HTR, on a de la chance, il y a deux standards possibles. Il y a XML Alto et XML Page, qui sont des formats structurés dans lesquels on trouve donc le lien vers l'image, et puis les coordonnées des différentes lignes de texte, et là on peut associer les transcriptions. Ces formats-là, ils sont supportés par beaucoup de logiciels d'HTR, donc c'est parfait. C'est pour ça que je disais que ils sont plus interopérables. Enfin, les données sont plus interopérables que les modèles parce qu'on a ces formats-là standards pour les données, alors qu'on ne les a pas donc, pour les modèles. Mais quand on a un chercheur ou une chercheuse qui a l'habitude de transcrire en dehors de la transcription automatique, souvent il y a le problème de faire comprendre que le lien entre l'image et le texte et la précision des coordonnées est en fait tout aussi important que la transcription elle-même. Donc ça, c'est une première confrontation. Et la deuxième, c'est donc sur les normes, ici dans le cas de la transcription, c'est-à-dire faire comprendre à une personne qui transcrit son manuscrit que documenter les choix qu'elle fait de transcription, c'est aussi important que de suivre des standards. Pas forcément de suivre des standards pour la transcription elle-même, parce que chaque projet a ses besoins, et dans certains cas, effectivement, un utilisateur ou une utilisatrice peut dire « pourquoi je perds du temps ?» à suivre cette règle de transcription pour tel type de phénomène sur la page, alors qu'en fait, je m'en fiche pour mon projet. Mais si je veux que mes données soient réutilisables par un autre projet, j'ai plutôt intérêt à leur dire « Attention, au fait, j'ai pas transcrit les majuscules avec des caractères majuscules. » Comme ça, la personne peut se dire « Ok, ça, c'est pas un dataset qui est utile pour moi, voire même c'est un dataset qui va polluer mon entraînement de modèle si j'essaie de le réutiliser avec mes modèles à moi où les majuscules sont importantes.
» Ouais. Là, on parle de formats, de standards et de normes, et surtout de la manière dont les gens sont à l'aise, non seulement de les suivre selon leurs propres besoins, mais en plus de les documenter et de les rendre accessibles. Est-ce que ces questions de rendre claires et accessibles ces normes et ces manières d'utiliser qui sont idiosyncratiques et propres à chaque projet, est-ce que de garder ça en tête, ça affecte la manière dont les chercheurs, chercheuses pensent à leur futur projet, ou est-ce que ça influence leur manière de penser à long terme?
Quand une personne découvre la transcription automatique, il y a vraiment un côté, on découvre au fil de l'eau. Et on développe une expertise et une expérience qui permet de faire mieux les fois d'après. Il y a clairement un intérêt, là je parle de partager les données avec les autres, mais les autres ça peut être aussi son moi du futur. Hein. Il y a vraiment une idée que ces données-là, elles sont utiles pour d'autres projets futurs. Parfois on n'a pas anticipé qu'elles pourraient être utiles. Par contre, c'est sûr que être confronté à la fin d'un projet de transcription, à l'idée que mais en fait, ça serait pas mal de publier les données qui ont servi à entraîner les modèles, du coup, si je veux les publier, il faut aussi que je documente donc comment j'ai transcrit, etc. Ça met les utilisateurs et les utilisatrices de l'HTR devant le fait de les plans de gestion de données, c'est quand même pratique. Anticiper le cycle de vie de ces données, c'est bien parce que ça permet de penser au moment où on les produit que ces données-là, on va les partager. Donc, il faut avoir des pratiques un peu plus structurées dans certains cas. Ça veut dire aussi dans des grosses équipes de parfois bien identifier les rôles de chaque personne qui contribue à la transcription pour avoir peut-être une personne qui est un peu lead sur une équipe de transcripteurs ou transcriptrices pour trancher certaines questions ou simplement une personne qui est en charge de la publication de ces données. Donc, oui, je pense que cette question-là, ça peut être une manière pour que certains chercheurs et chercheuses qui sont moins sensibilisés aux enjeux de la science ouverte par ailleurs, changent leurs pratiques et comprennent l'intérêt de la science ouverte et l'intérêt des plans de gestion de données, mais au-delà de ça, de la stabilisation de certains protocoles à partir du moment où on utilise certains logiciels qui demandent à stabiliser nos pratiques.
En quoi est-ce que ce dysfonctionnement, si on veut, ou plutôt ce bug, cette pause qu'on est obligé de prendre pour réfléchir à toutes ces questions, en quoi cet arrêt est producteur aussi de connaissances?
Mon sentiment, c'est que quand on essaie de sensibiliser à ces questions-là, en fait, ça permet aussi de sensibiliser ou de former les gens à mieux comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne, ses limites aussi. Parce que si on s'interroge sur la qualité des données, etc., ça veut dire que l'intelligence artificielle ou les logiciels d'apprentissage automatique, ça marche pas que parce qu'il y a des algorithmes, pas que parce qu'il y a du temps qui est passé à faire tourner les modèles ou les entraîner, mais aussi parce qu'on dédie du temps à la qualité des données.
C'est vrai qu'on a tendance, je veux dire, surtout avec l'espèce de montée en popularité des chatbots, de négliger l'idée que ces modèles ont été entraînés à partir de quelque chose et on ne voit que le résultat, en fait. Et l'IA n'aurait jamais l'air aussi intelligente si on ne l'avait pas éduquée avec quelque chose de la même manière que une intelligence humaine n'existe pas si on ne l'a pas entraînée avec quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier.
En fait, jusqu'à présent, j'ai parlé de réutiliser les données ou publier les données comme si chacun des chercheurs et des chercheuses ou des utilisateurs et utilisatrices de l'HTR étaient isolés et travaillaient dans leur projet, leur groupe. Mais en fait, ce qui est intéressant justement dans la perspective de contribuer à la science ouverte avec les données de la transcription automatique et d'entraînement de la transcription automatique, c'est le fait que, parce que de plus en plus de personnes mettent en commun leurs données ou publient leurs données, ça permet de créer des initiatives et des regroupements de chercheurs qui vont réfléchir ensemble, à partir de leurs projets et des jeux de données qu'ils ont mis en ligne, à des règles de transcription qui sont communes à plusieurs personnes.
Mmh.
Et ensuite, ces données-là, elles peuvent être agrégées. Donc à partir du moment où on dit « Ah bah tiens, je vais prendre tel dataset, tel dataset, tel dataset et tel autre », et même s'ils n'ont pas exactement les règles de transcription, les mêmes règles de transcription, en fait, je peux les modifier un petit peu de manière automatique grâce à la documentation des règles de transcription. Je peux les aligner toutes et les rendre compatibles et ensuite créer ce qu'on appelle des modèles de transcription génériques qui permettent de sortir de cette logique de « je dois transcrire mon 50 pages pour pouvoir entraîner un modèle ». Là, je peux utiliser un modèle générique, donc qui connaît plusieurs mains d'écriture, qui peut aussi être utile sur plusieurs langues et plusieurs siècles. Et je peux m'en servir pour pré-annoter mes données de manière efficace ou aussi simplement pour le réentraîner en ne transcrivant que 5 pages. Ça, c'est ce qu'on arrive à faire maintenant parce qu'on a petit à petit une mise en commun des pratiques. Cette mise en commun arrive parce qu'on a une mise en commun des données et que ça soulève le fait que si on veut que nos données soient vraiment interopérables, il faut qu'on discute aussi en amont et en dehors des projets de transcription qui nous occupent.
Merci beaucoup, Alix Chaguet, pour cet épisode et cette discussion super riche.
Merci d'avoir écouté Escolet, une balade aux diffusions proposée par la Chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas les temps perdus, mais que vous continuerez à en perdre encore. en nous suivant sur scolaire.écriturenumérique.ca, S-K-H-O-L-E, écriture numérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes. Thank you.